Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour Frédéric.
Considérez-vous que la proposition de loi anti-casseurs qui est examinée depuis hier à l'Assemblée nationale soit liberticide ?
Alors, nous, on défend deux choses. La liberté de pouvoir manifester et le maintien de l'ordre public. Mmh. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a même certaines personnes qui ne vont pas manifester parce qu'elles ont peur de se retrouver au milieu des casseurs. Donc il faut, c'est toujours cet équilibre-là qu'il faut obtenir. Ce qu'il y a dans la loi proposée par le gouvernement, il y a notamment l'interdiction administrative, pas décidée par un juge, décidée par un préfet, de manifester pour certaines personnes. Là, on va à l'encontre de ce que ça... de ce qu'a toujours été notre droit, c'est-à-dire le respect des libertés individuelles et notamment la liberté de manifester. Le deuxième point qui nous inquiète...
Il y a sans doute une recherche de rapidité d'action aussi.
Dans ce cas, il faut toujours qu'il y ait un juge qui intervienne à un moment donné. Il faut toujours que ça puisse être contradictoire. Vous ne pouvez pas, dans le fond, constituer un frein à la liberté des Français ou des individus comme ça sur une simple décision administrative. Ça, c'est le premier point. Et le second point qui nous inquiète, c'est effectivement l'utilisation de flashball dont on a vu qu'il pouvait blesser des personnes. Donc là, nous avons une position qui est de dire quand on est face à une foule, on pense qu'il ne faut pas les utiliser. C'est d'ailleurs ce qu'a écrit en novembre dernier, le 15 novembre dernier, l'inspection générale de la police nationale en disant qu'il pouvait, c'est un rapport qui a été rendu, qu'effectivement ça pouvait être dangereux à certains moments. Évidemment, quand les policiers sont en situation de devoir se défendre ou quand ils affrontent des casseurs, là, on est dans une autre configuration.
Donc, il y a des choses. Est-ce qu'il faut prendre des mesures? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier pour éviter que la casse, comme on la voit depuis maintenant 11 week-ends, ne se reproduise sans cesse?
Mais il y a déjà les outils législatifs qui existent. Parce que le problème en France, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on veut faire une nouvelle loi. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas d'ores et déjà ce qui existe aujourd'hui? Et la question qui se pose et qui, à mon avis, n'est pas du tout évoquée dans cette loi-là, ce sont les moyens humains dont disposent la police et la gendarmerie. On voit bien qu'il y a encore des créations de postes qui ont été annoncées mais qui ne sont pas pourvues et qu'effectivement, les effectifs sont insuffisants pour faire face à cette situation-là. Ça, ce point-là, il n'est pas du tout évoqué dans le texte de loi proposé par la proposition de loi qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale.
L'OCDE a dévoilé hier un accord de principe qui a été conclu par 127 pays, dont les États-Unis, et ça c'est un cap qui a été franchi en quelque sorte pour parvenir à un accord au plus tard en 2020 sur la taxation des géants du numérique, les fameux GAFA. Ce serait sans doute une petite, ou peut-être même, je ne sais pas, vous allez me le dire, une grosse révolution. Est-ce qu'on peut imaginer que les conséquences économiques de cette mesure soient vraiment significatives ?
Alors, il y a un vrai problème de taxation de ces géants du numérique qui font leur marché mondial, qui ont de l'activité partout, et qui ne payent de l'impôt quasiment nulle part. Enfin, l'OCDE, parce que là, on voit bien c'est pas qu'une question franco-française, c'est une question qui dépasse les frontières de la France, disent, écoutez, maintenant, ça suffit, il y a un principe de démocratie, de citoyenneté qui fait que chacun paye de l'impôt là où il crée de la richesse, il fait de la production. Donc, oui, on peut attendre des rentrées significatives fiscales, mais le principe fondamental, c'est que toutes ces sociétés, elles ne doivent arrêter d'échapper à l'impôt. Tout simplement parce qu'elles localisent des activités un peu partout et que dans le fond, on a du mal à repérer ces activités. C'est ça le vrai sujet qui est posé.
C'est la morale qui doit prédominer, au fond, c'est ce que vous dites. Mais après, la morale rapporte de l'argent...
Mais si la morale... Alors, c'est même pas une question de morale, c'est une question d'équité. Vous payez vos impôts, pourquoi les géants du numérique ne paieraient pas leurs impôts? C'est une question d'équité. Et il se trouve qu'en plus, ça peut faire des rentrées fiscales quand on regarde les chiffres d'affaires de ces entreprises. Et les bénéfices supposés à droite à gauche, effectivement, on peut penser que ça va générer des rentrées fiscales.
Plusieurs dizaines de djihadistes partis rejoindre l'État islamique en Syrie ou en Irak doivent être prochainement rapatriés en France. Doit-on, selon vous, ou peut-on faire autrement?
Alors, peut-on faire autrement? Non. Mais la question qui est sous-jacente, c'est la diplomatie française. Ces djihadistes, aujourd'hui, sont détenus par les Kurdes, qui ont... participer, enfin plus que participer, à la libération de Raqqa. Et c'était... il faisait partie de la coalition, c'est-à-dire entre la France, les États-Unis, etc. L'année dernière, la France les a quand même laissés tomber lorsque la Turquie a décidé de mener une opération à Afrin. C'était au mois de mars dernier. Bon. Là, vous comprenez bien que la France n'a pas joué son rôle. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un risque que, comme les États-Unis se désengagent de la Russie, de la Syrie, pardon, qu'il y a un risque que ces djihadistes se retrouvent dans la nature.
Donc, il vaut mieux qu'ils soient en prison en France que.
Il vaut mieux qu'ils soient en prison en France qu'on ne sait pas où. Mais le point de départ, c'est quand même bien que la France n'a pas joué tout son rôle vis-à-vis des Kurdes qui détiennent ces djihadistes et qui ont permis la libération de Raqqa. Et ça, c'était quand même un accord qui était fait avec l'ensemble de la coalition. Donc sur ce point-là, on n'a pas été très réglo. Et donc du coup, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve à gérer une situation où, on sans doute, le gouvernement français n'aura pas d'autre choix que faire celui-là.
On va évoquer un peu le Parti Socialiste. Lundi soir, Olivier Faure, le premier secrétaire de votre parti, a dressé un inventaire assez sévère du quinquennat de François Hollande. Il a notamment évoqué, je cite, « l'occasion manquée de la remise à plat fiscale, la déchéance de nationalité, la loi travail, qui ont donné, a-t-il dit, aux Français le sentiment d'être trahis. En prenant les Français à revers, nous nous sommes devenus insaisissables. » Et en sortant de notre socle de valeurs, nous avons perdu notre fiabilité. Est-ce que cet exercice de contrition, en quelque sorte, ne revient pas à admettre que les frondeurs avaient raison ?
Non, mais alors, moi, j'étais pas favorable à cet exercice. Et je préférais plutôt qu'on parle de tout ça, plutôt qu'on mette sur la table les propositions du Parti Socialiste. Demain, jeudi, nous avons la journée qui nous est réservée pendant l'année sur nos propositions de loi. Qu'est-ce qu'on met sur la table ? On dit, il faut inventer dans le fond, le soutien social du 21e siècle. On met une proposition de revenu de base. C'est pas un revenu universel pour tous, mais c'est de dire, plutôt qu'aller chercher votre RSA auprès du conseil départemental, votre prime d'activité auprès de la caisse d'allocation familiale, on a une lisibilité d'une seule prestation qui est très claire, qui est automatique. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place...
Pour éviter le non-accès aux droits.
Le non-accès aux droits. Aujourd'hui, le gouvernement a mis le prélèvement à la source. Donc, il faut que ça puisse fonctionner dans les deux sens. Et on veut pouvoir l'expérimenter dans 18 départements. C'est ça que nous demandons au gouvernement, de dire, avant de faire la loi généralisée, on expérimente. C'est beaucoup plus intelligent pour repérer les éventuels bugs. Ça, c'est une chose très concrète. On fait aussi une proposition pour que les 350 000 enfants qui sont porteurs de handicap et qui sont scolarisés ne découvrent pas le jour de la rentrée seulement où ils vont être affectés. Ça, ce sont des choses très concrètes. Alors, je sais que personne n'en parle parce qu'on préfère toujours
faire des
exercices de contrition. Mais il y a des vraies propositions qui sont travaillées, qui sont portées, qui malheureusement n'entrent pas suffisamment dans le débat public, c'est sans doute de notre faute, mais qui montrent que oui, nous avons des propositions pour faire évoluer, pour répondre aussi aux questions que posent les Gilets jaunes aujourd'hui.
Rapidement, tout de même, Olivier Faure est prêt à céder la tête de liste pour les Européennes au leader d'un autre parti, si cela permet le rassemblement de la gauche. Est-ce que vous, c'est un scénario que vous pourriez accepter, pas de tête de liste socialiste ?
Nous sommes pour le rassemblement de la gauche. Ouais. Et moi, c'est un scénario que je serais prête à accepter, mais pas n'importe quelle condition quand même. Et évidemment, je souhaite que ce soit discuté devant les instances du Parti Socialiste.
Pas n'importe quelle condition, mais très vite, ça veut dire qu'il y a pour vous des exclusives ?
C'est pas n'importe quand. On fait jamais de chèque en blanc. Attendez. Moi, je sais pas qui pourrait être tête de liste. Toujours est-il que si la question se posait, évidemment qu'on fait pas un chèque en blanc.
Merci Valérie Rabault.
Merci à vous.
Bonne journée.